En France, les menaces sur la liberté d'informer nous préoccupent.
L'autre soir, j'allume la télé comme un idiot. Pas de bol, c'était l'heure des infos.
À Vincent Bolloré, oui, je lui demanderai de rétablir le vrai journalisme.
Au nom de la mauvaise foi, de la fausse rumeur et de l'annonce publicitaire, je te baptise journaliste.
Burns possède tous les médias. Il faut que je dénonce ça avant qu'il soit trop tard.
Ah, vous les aimez pas, les journalistes.
Welcome to the world of the media.
Chaque jour, les journalistes nous informent, décryptent l'actualité et détricotent le vrai du faux.
Mais en coulisses, la profession trébuche et se heurte à de nombreux défis.
Le journalisme est un métier passion. Que se cache-t-il derrière cette formule attrayante?
À l'heure des réseaux sociaux et des fake news, comment s'informer de manière fiable?
Que faire quand la loi ne suffit plus à protéger ceux qui garantissent notre liberté de penser?
Entre pression, menaces et intimidation, comment les journalistes bretons enquêtent-ils?
Les médias indépendants trouvent-ils leur place dans un milieu médiatique sous forte pression?
D'habitude, ce sont les journalistes qui posent des questions.
Cette fois, nous sommes allés interroger le système de l'intérieur.
En quête de sens, une série documentaire en 5 épisodes réalisée par les étudiantes et étudiants du Master de Journalisme de Sciences Po Rennes.
Je ne suis pas la première journaliste à être placée en garde à vue, à être perquisitionnée. L'objectif des autorités, c'est pas seulement de connaître les sources, c'est l'objectif premier, mais le deuxième objectif, c'est d'intimider les sources des journalistes, c'est d'intimider toutes les personnes au sein de l'État, en dehors de l'État, qui aimeraient informer des journalistes. Et c'est là où c'est très grave, parce que on attaque les journalistes et on diminue l'espace démocratique en même temps.
Celle que vous venez d'entendre, c'est Ariane Lavrieux. Et si vous ne la connaissez pas, laissez-moi vous la présenter. Ariane Lavrieux est journaliste pour le média d'investigation Disclose. Plus précisément, son nom s'est fait connaître en septembre dernier, lorsque son domicile a été perquisitionné par la DGSI, avec en prime la récupération des données de son ordinateur et de son téléphone. Ah oui, et aussi, elle a été mise en garde à vue pendant 39 heures. Vous vous demandez très probablement pourquoi. Eh bien en fait, on l'accuse d'avoir bravé le secret défense en révélant la participation de l'État français entre 2016 et 2018 à des frappes aériennes en Égypte ayant tué des civils dans le cadre de la mission de lutte antiterroriste, Syrie.
Entre attaque à la protection des sources, concentration capitalistique des médias et censure, l'indépendance des journalistes et des médias en France est plus que jamais menacée. Le droit d'informer est-il vraiment garanti dans notre pays ?
L'enquête de la journaliste de Disclose a fait l'objet d'une émission complément d'enquête qui a été diffusée sur France 2 en novembre 2021. Pour en parler, nous avons rencontré son réalisateur, le journaliste Jean-Pierre Canet, à Paris. Entre deux coups de fourchette, il revient sur le motif pour lequel sa collègue a été perquisitionnée et détenue, la compromission du secret défense.
Une mission d'information française est détournée par une dictature pour tuer des gens dans le désert ou leur tirer dessus. Tout va bien, super. Mais c'est nous les criminels. C'est nous les journalistes qui sommes criminels parce que nous avons osé interroger le sacré défense qui protège ça. Eh ben non, en fait. Bien sûr que le secret défense est légitime. Bien sûr qu'il y a des choses que l'État doit protéger pour des raisons d'intérêts nationaux, au moins à court terme. Il est normal que le secret défense existe. En revanche, il n'est pas normal que le secret défense soit sacré défense. La notion de secret défense en France s'est considérablement élargie. Des fonctionnaires habilités qui ne l'étaient pas avant peuvent classer un peu ce qu'ils veulent, parfois seuls, un certain nombre d'éléments de secret défense, sans qu'il y ait un contrôle parlementaire, et sans que nous, journalistes, on puisse s'appuyer sur notre statut pour aller interroger ça.
Les conséquences de l'affaire Ariane Lavrieux ont eu le mérite de remettre la protection des sources au cœur des préoccupations des journalistes. Nous avons rencontré l'une d'entre elles.
Allô ?
Catherine Zemmoury, ancienne grand reporter et enseignante en journalisme à Paris, a soutenu sa thèse sur la protection des sources du journaliste le 12 octobre dernier à la Sorbonne. Pour elle, ces dernières années, les attaques à leur encontre ont non seulement augmenté en nombre, mais aussi en degré d'atteinte.
C'est que la France est quand même le pays de la Déclaration des droits de l'homme, donc on s'attendrait a priori à ce qu'il y ait une protection assez verrouillée, protection juridique, mais pas du tout. La loi de 1881, qui est la grande loi pour la presse, ne mentionne absolument pas la question de la protection des sources du journaliste. Il a fallu attendre en fait 1993 pour que ça apparaisse dans une loi, mais indirectement, avec la loi qui autorise le droit de se taire aux journalistes, donc quand ils sont arrêtés, depuis 1993, donc vous voyez, de 1881 à 1993, il n'y a rien eu. Et puis par la suite, ce qui en fait a protégé en France la protection des sources du journaliste, c'est l'Union européenne et la CEDH plutôt, directement, la Cour européenne des droits de l'homme, qui à chaque fois, depuis les années 70, retoque systématiquement tout jugement français qui oblige les journalistes à révéler leurs sources. C'est la Cour européenne qui protège les journalistes français, c'est ça qui est complètement paradoxal.
D'ailleurs, c'est à la suite d'une condamnation européenne que le gouvernement français finit par voter la loi Dati en 2010. Selon cette loi, le juge peut demander à un ou une journaliste de révéler sa source si un impératif d'intérêt public le justifie. Mais le problème, c'est qu'aucune définition claire précise ce qu'est réellement l'intérêt public. En fait, c'est le juge qui le définit.
Là où il y a le piège, c'est que en fait, l'article 1er de la loi protège officiellement la source du journaliste, mais l'article 2 vide cette loi de sa substance. C'est-à-dire que l'article 2 est tellement flou que les juges peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent interpréter la loi comme ils veulent. Donc, du coup, cette loi, officiellement, sert à rien. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a toutes ces arrestations et ces possibilités de pression et d'influence et de tentatives d'obtention des noms qui ont donné l'information. Il y en a autant parce que, justement, on a un arsenal juridique qui est très, très faible et qui est très faible délibérément.
Pour la doctorante, la volonté politique n'est pas suffisante pour protéger les sources du journaliste.
Il y a eu deux tentatives de réforme en 2013 et en 2016 qui n'ont pas abouti. Donc en fait, là, on voit bien que c'est quand même le rôle du politique qui est faible et qui n'est pas suffisamment volontaire pour aller dans le sens de la protection, au moins de faire en sorte que la loi change cette protection. Il y a un autre exemple de tentative de réforme qui a été menée par Christiane Taubira en 2013, donc, qui a décidé de prendre la loi belge et de la mettre dans notre corpus juridique. Quand elle a voulu présenter cette loi, ce projet de loi au Parlement, elle s'est retrouvée avec le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice qui se sont opposés. Et la loi de 2016, la tentative de réforme, a été retoquée par le Conseil constitutionnel après avoir été remaniée, remaniée pour des raisons politiques. Donc clairement, il y a un problème politique.
Dans ses travaux, Catherine Zemmoury fait une comparaison avec le modèle belge qu'elle considère comme le plus complet. En effet, la loi belge impose que la source du journaliste soit révélée si et seulement si ça permet d'empêcher une atteinte physique sur une ou plusieurs personnes. Supposons qu'une journaliste enquête sur un réseau pédophile à Bruxelles, le juge peut lui imposer de révéler sa source avec pour intention la volonté de protéger les enfants. Ce que souligne Catherine Zemmoury, c'est que contrairement à la loi française, la loi belge ne laisse pas de flou juridique et donc pas de marge d'appréciation au juge quant à ce qui serait ou non un motif de révélation d'une source. Pour elle, l'absence de cadre juridique fort en France est une réelle menace pour le travail du journaliste et donc forcément pour la démocratie.
C'est très délicat, très périlleux et puis surtout, ça envoie un très mauvais signal à toutes les autres sources potentielles qui voudraient révéler des affaires d'intérêt public. Hein. Et toutes ces personnes-là, si elles voient qu'en fait le juge peut obtenir le nom de la source, ben, finalement elles vont se rétracter et elles ne vont plus parler aux journalistes. Et donc du coup, le journaliste ne pourra plus être dans sa fonction première qui est de faire des enquêtes et de révéler justement des choses qui seraient cachées. Donc ça, c'est gravissime quand même. Pour une démocratie, c'est grave.
Vous êtes toujours sur Canal B, vous écoutez Silence ça presse, un épisode de la série documentaire En quête de sens.
La censure entre en scène. Le journaliste peut lui-même se censurer de peur que la justice ne s'en prenne à ses sources. Mais ce n'est pas la seule forme qu'elle peut prendre.
Elle s'étend aussi au domaine économique. C'est ce qu'Acrimed critique en dénonçant un modèle de financement des médias qui ne permet pas le pluralisme démocratique. Créée en 1996, cette association a pour but, je cite, « de contester l'ordre médiatique marqué par la financiarisation, la concentration et la marchandisation de l'information ». Nils Solari, salarié d'Acrimed, revient sur les limites des différents modes de financement des médias, parmi lesquels les aides à la presse.
Le problème, c'est que ces aides à la presse, à nouveau, bah, elles profitent aux plus gros. Quand on regarde ceux qui en touchent le plus, bah, le premier, c'est par exemple Bernard Arnault.
Comment on décide en fait à qui on va verser ces aides à la presse ?
Demander au gouvernement. C'est très opaque.
En 2022, Bernard Arnault, directeur général du groupe de luxe LVMH, mais aussi propriétaire des Échos, du Parisien et de Radio Classique, a touché 14,6 millions d'euros d'aide publique pour ses entreprises de presse. L'année précédente, il en était déjà le bénéficiaire principal.
Alors que les aides publiques à la presse devraient assurer le pluralisme médiatique en soutenant des publications à faibles ressources, elles sont allouées à des milliardaires extérieurs au métier de l'information qui possèdent des journaux déjà bien implantés. On pourrait se dire que ce n'est pas si grave, qu'il existe d'autres moyens de financement des médias, et c'est vrai. Il y a par exemple la redevance audiovisuelle, qui elle aussi soutient le secteur public.
Enfin soutenait, puisqu'en 2022, Emmanuel Macron, fraîchement réélu, a quand même annoncé leur suppression.
Alors déjà, il faut quand même pouvoir dire, avec je pense la plupart des salariés du secteur public qui sont inquiets et à juste titre, que la suppression de la redevance audiovisuelle, c'est une très mauvaise nouvelle pour eux. Parce qu'à terme, c'est le risquer de priver ce fameux secteur public de véritables moyens de production. Et il y a la crainte d'une nouvelle mainmise du politique sur le financement de l'audiovisuel public.
La taxe sur la redevance audiovisuelle fait maintenant partie du budget de l'État. C'est donc lui qui choisit combien d'argent revient à quel média public. Selon Françoise Benhamou, économiste de la culture et enseignante à Sciences Po Paris, l'inconvénient de la budgétisation, c'est que l'on est beaucoup moins à l'abri des aléas politiques puisque ce dernier décide du budget. Bon, il faut noter que le financement des médias peut aussi être privé. Et dans ce cas, selon Niels Solari, le nerf de la guerre, c'est la publicité.
Pour vous donner un ordre de grandeur, la redevance audiovisuelle, elle a été évaluée à 3,7 milliards à peu près, je crois, en 2021. Le budget de la pub en 2018, c'est un rapport de 1 à 4, c'est 16 milliards d'euros. Ce qu'on est obligé de constater, c'est que la publicité et le poids des annonceurs a des conséquences sur la production de l'information. À un moment donné, il y a cette ancienne journaliste du Monde, Maureen Grisot, qui relate le fait qu'elle était correspondante pour Le Monde en Afrique, qu'elle a fait un papier sur les intérêts africains de Bolloré, et qu'un jour elle rentre à Paris et que son rédac-chef lui dise « ça te fait quoi d'avoir coûté 16 millions d'euros au journal ?»
En réalité, c'était 12 millions d'euros. Et l'histoire, c'est la suivante. Un beau jour, en 2014, la journaliste publie une enquête concernant le monopole de Vincent Bolloré sur le port d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Et voilà quoi, le patron de Vivendi, une entreprise de communication qui met en relation le quotidien avec des annonceurs, a empêché le journal d'obtenir des publicités. Cet exemple illustre bien comment des annonceurs peuvent faire pression sur le contenu de la production journalistique.
Bref, le système de financement actuel pose problème. Les pressions économiques diverses provenant des annonceurs comme du gouvernement entravent la liberté d'expression et menacent la démocratie. D'autant plus lorsque la majorité de la production de l'information appartient à quelques milliardaires.
Je peux donner quelques chiffres. Aujourd'hui, la presse en France, c'est 10 milliardaires qui concentrent pas loin de 90% des ventes de quotidiens nationaux, 55% de l'audience télévisuelle et 40% de celle des radios. Donc il y a quand même une grande mainmise des grandes fortunes sur les médias privés à vocation lucrative. Ça se traduit par le fait qu'on a aujourd'hui quelque chose comme une trentaine d'actionnaires sont à la tête du capital des principaux médias privés d'information. Parmi cette trentaine d'actionnaires, on a les plus grandes fortunes du pays, à commencer par Bernard Arnault, mais également Xavier Niel, Patrick Drahi, Martin Bouygues, François Pinault, la famille Dassault, etc. Dit comme ça, ça peut paraître... au commun des mortels, ça peut pas forcément parler, mais la conclusion qu'il faut avoir en tête, c'est que oui, on a une presse en France qui est fortement concentrée.
Pour mieux comprendre tout ça, permettez-moi de vous proposer un petit cours sur la concentration à la française. Il existe différents types de concentration, mais deux se démarquent particulièrement dans le monde des médias. D'abord, la concentration transversale, quand une personne ou une entreprise possède plusieurs médias dans des supports distincts. Par exemple, M. Bolloré possède Canal+, une chaîne de télévision, mais aussi Europe 1, une radio, Paris Match en presse magazine et le JDD en presse hebdomadaire. On peut aussi parler de la concentration conglomérale, c'est le fait de posséder plusieurs entreprises dans des branches différentes, comme le groupe Bouygues qui agit dans quatre secteurs, la construction, l'immobilier, les télécoms avec Bouygues Télécom et les médias en possédant TF1.
Et quelles répercussions cela peut-il avoir sur l'information ?
Si la concentration médiatique aboutit au fait que une apparente diversité de médias en fait n'appartiennent qu'à peu de mains, qu'à peu de propriétaires, ça concourt au fait que le pluralisme de la société, je dis bien de l'ensemble de la société, n'est pas forcément reflété. Et son incidence sur la production journalistique, c'est plus subtil que le fait de dire que ses grands patrons viendraient tous les matins dans les salles de rédaction pour donner leurs ordres. D'ailleurs, la sociologie du journalisme a montré la manière dont cette propriété des médias par de grands intérêts induit toute une série de mécanismes chez les salariés de médias, comme des mécanismes d'autocensure par exemple, ou le fait que un rédacteur ou une rédactrice en chef va neutraliser, pour ne pas dire censurer, des sujets qui pourraient aller à l'encontre des intérêts de l'actionnaire majoritaire. Hein, c'est le fameux adage « on ne mord pas la main qui nous donne à manger ».
Peu importe que la censure soit sourde ou explicite, le résultat sera toujours le même. Une info jetée à la poubelle, un article jamais publié, une enquête retirée du programme.
La banque Crédit Mutuel CIC a très bonne réputation. Mais selon nos informations, le groupe bancaire aurait mis en place depuis la fin des années 90 plusieurs systèmes présumés d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent au profit de ses riches clients. Vous allez découvrir dans ce reportage des pièces à conviction stupéfiantes, comme des témoignages d'anciens salariés, des enregistrements ou encore des documents qui n'auraient jamais dû voir le jour.
Des documents qui n'auraient jamais dû voir le jour. L'animatrice de l'émission Pièce à conviction fait bien de le dire, parce que cette enquête, diffusée sur France 3 en octobre 2015, était initialement prévue pour Canal+, et aurait dû être diffusée au mois de mai. Mais voilà, 2015, c'est l'année d'arrivée du nouveau patron de Canal+, Vincent Bolloré, qui était très ami avec Michel Lucas, à l'époque président du Crédit Mutuel. Jean-Pierre Canet a travaillé sur cette enquête.
Oui, la liberté de la presse, très bien, mais si on doit faire des enquêtes sur nos partenaires, ça ne peut pas aller. Et c'est là qu'on rentre dans le cœur du sujet, c'est-à-dire qu'en dehors du projet politico-économique d'un Bolloré, qu'on n'a pas très identifié à l'époque, qu'on a perçu, mais on n'en a pas perçu l'ampleur encore à l'époque, quelle conception ils ont de la liberté de la presse ? Ont-ils le souci ou non de protéger l'information ? Ont-ils politiquement intégré le fait que l'information n'était pas un produit comme un autre ? Qu'elle a un rôle démocratique et qu'il est donc normal qu'elle ait un statut particulier. Bon, bah là, Vincent Bolloré, il l'a balayé d'un revers d'une main, en fait, le droit d'informer.
Des années après, en 2017, Jean-Pierre Canet et son collègue Nicolas Vescovacci écrivent un livre, Vincent Tout-Puissant. Dedans, ils reviennent sur cette enquête et dressent le portrait d'un homme d'affaires prêt à tout pour arriver à ses fins, quitte à transgresser les droits de la presse ou les droits humains. Sans surprise, les deux journalistes ont été poursuivis pour diffamation par le patron de Vivendi.
Moi, je ne suis pas du genre à victimiser les journalistes. On ne doit pas être des victimes. Quand on choisit de faire un métier où on fait de l'investigation, il faut s'attendre à prendre des coups. C'est normal, on a des comptes à rendre. Il y a des limites. Il y a une différence entre une attaque en diffamation d'une entreprise qui a tout à fait le droit de le faire contre une enquête qu'on peut produire et ce qu'on appelle les procédures bâillons, ce que Vincent Bolloré fait subir. Ça se passe comment ? Vincent Bolloré, quand il a attaqué notre livre, qu'est-ce qu'il a fait ? 400 pages de livre, il a attaqué 350 pages. Il y a 8 chefs d'inculpation. Tout le monde attaquait. Lui, Vivendi, Canal+. Et donc, qu'est-ce que vous faites ? Nous, on est pigistes en face. Pendant 3 ans et demi, il nous a fait dépenser de l'argent d'avocat. On a eu je ne sais pas combien de rendez-vous au tribunal. Tout ça pourquoi ? Au mois de février, on devait être en procès. On attendait ça en se disant, bon voilà, nous on est prêts, on a nos armes, etc. Et il a abandonné la procédure. Voilà.
Donc, à chaque fois.
Pas à chaque fois.
Il reste quand même quelque chose qu'il fait assez régulièrement.
Ouais.
Il pousse les gens, il a entre guillemets l'argent, il sait que ça va lui coûter très cher, mais en fait il désincite les journalistes à enquêter sur son cas.
C'est que dalle en fait, ce qu'il a lui à dépenser par rapport à nous.
France Inter, Le Point, L'Obs, France 2, Reporter, Médiacité, Mediapart, Bastamag, France Info, tous sont passés sous le radar Bolloré. Le problème, c'est que pour les journalistes, il est quasiment impossible de lutter contre un milliardaire.
Quand on s'empare d'un média, on a une responsabilité. Et c'est exactement ce que la loi n'impose pas aujourd'hui à un Bolloré ou à un Bouygues ou à un Dassault. Dans un contexte où des milliardaires, qu'ils soient individuellement ou par leur structure, prennent possession de médias, il faut qu'on ait un arsenal juridique pour protéger les rédactions et pour empêcher qu'un Vincent Bolloré puisse censurer sans aucune vergogne une enquête et que la rédaction n'ait aucun instrument pour contrer ça. Il faut qu'on ait des outils pour protéger les rédactions à l'intérieur de ces structures. C'est ça la logique de fond et ça c'est ce que raconte parfaitement Julia Cagé.
Vous êtes toujours sur Canal B, vous écoutez Silence sa presse, un épisode de la série documentaire En quête de sens. Auteur de plusieurs livres sur le sujet, Julia Cagé est LA spécialiste de l'économie des médias. Nous l'avons rencontrée à Rennes à l'occasion d'une conférence.
Ce premier samedi des vacances et ce samedi très pluvieux d'être venu jusqu'au Champ Libre pour
Dans son livre « Pour une télé libre contre Vincent Bolloré », l'économiste et professeur à Sciences Po Paris évoque les limites d'un système médiatique hyper concentré et détenu par une poignée de milliardaires. Mais surtout, elle souligne les failles du système actuel de régulation de la concentration médiatique. Et aux premières loges, la loi de 1986, ou loi Léotard, relative à la liberté de communication.
Pourquoi cette loi de 86 pose plusieurs problèmes, hein, c'est parce qu'elle date de 86, donc moi j'étais à peine née et il n'y avait certainement pas Internet, et en fait on l'a très peu repensée depuis, on l'a retouchée à la marge, mais elle n'est plus du tout adaptée au système actuel. Je vous donne 2-3 exemples. Dans la loi de 86, quand on essaie de réguler ce qu'on appelle la concentration en fonction des supports, on va dire, il y a une règle qui s'appelle le 2/3. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit d'avoir plus de 2/3 des supports. Donc, par exemple, vous pouvez avoir journal, radio, mais dans ce cas-là, vous êtes limité dans votre actionnariat de la télé, radio, télé, vous êtes limité dans votre actionnariat des journaux. Il n'y a pas Internet. Donc on régule encore aujourd'hui la concentration en parlant de 2/3 en termes de support. On pense le papier, le journal, la télé, il n'y a pas Internet. Ça fait aucun sens. Toutes les règles en termes de concentration assez strictes, c'est des règles qui portent sur les quotidiens d'information générale. Il n'y a pas les hebdos.
Pour Julia Cagé, la menace des grands patrons sur l'indépendance des médias est sans appel. Il faut réagir. En 2021, l'économiste coécrit avec le juriste Benoît Huet « L'information est un bien public, refonder la propriété des médias ». Ils y proposent des règles à inscrire dans une loi de démocratisation de l'information. Elle reposerait sur 3 principes.
Un, on dit qu'il faut une gouvernance plus démocratique des médias. Donc notamment, on veut une gouvernance paritaire des médias, avec des conseils d'administration et de surveillance qui comptent une moitié de salariés, ou au moins 2/3 de journalistes. Parce que on pense que les meilleurs garants de l'indépendance des médias, c'est les journalistes eux-mêmes. Deuxièmement, on donne aux rédactions un droit de veto sur le choix du directeur ou de la directrice de leur rédaction. Donc ça, on peut discuter le pourcentage des voix. Nous, on dit qu'il faudrait que le choix du directeur ou de la directrice de la rédaction soit validé aux 2/3 par les journalistes. Et donc ça, ça aurait changé complètement ce qui s'est passé, par exemple, récemment au JDD. Et troisièmement, et ça, je pense que c'est vraiment un espèce de ça changerait vraiment tout le rapport aujourd'hui à l'indépendance des médias. On remet au goût du jour quelque chose qui est dans la loi depuis 1944. Ce qu'on appelle le droit d'agrément. C'est-à-dire qu'on donne aux salariés la possibilité de voter en cas de changement d'actionnaire majoritaire. Qu'est-ce que ça change du coup d'avoir un droit d'agrément ? Ça donne la possibilité aux salariés, au moment de changement d'actionnaire majoritaire, de pouvoir négocier un certain nombre de droits. Et d'obtenir des droits, d'obtenir des sauvegardes, d'obtenir des garanties sur leur ligne éditoriale.
Alors que la France n'a jamais été aussi mal située dans le classement mondial de la liberté de la presse, il est temps d'inverser le cours de l'histoire et d'être à la pointe, enfin, du combat pour la démocratisation de l'information. C'est de cette manière que Julia Cagé et Benoît Huet clôturent leur livre. Et peut-être que le gouvernement l'a lu, puisque depuis octobre 2023, il a lancé les états généraux de l'information. C'était une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron. L'idée, c'est de réformer le secteur des médias en demandant une cinquantaine d'experts, de chercheurs et de journalistes triés sur le volet de réfléchir ensemble à des mesures qui garantiraient le droit à l'information. Les membres ont été répartis en 5 groupes de réflexion qui n'intègrent ni les syndicats de journalistes, ni l'opinion publique, et pas même certaines branches du métier. Les thématiques sont pourtant larges, innovation technologique, régulation, avenir des médias d'information, souveraineté et ingérence étrangère, et enfin, lien entre information, démocratie et citoyenneté. La journaliste Lucille Berland fait partie de ce dernier groupe. Elle nous confie ses inquiétudes concernant le rendu des propositions prévues fin mars.
Nos craintes, c'est que ce soit affaibli ou raboté, etc., en amont. Ou soit qu'après, même si tant est que le comité de pilotage reprenne mot pour mot tout ce qu'on a dit aux solutions de tous les groupes de travail, qu'après, ça reste lettre morte et que ça soit enterré ou blessé sur une étagère et qu'il n'y ait pas de mesures prises, de budget alloué, de lois passées et de décrets d'application.
Lucille Berland n'est pas la seule à avoir des doutes. Le journaliste Jean-Pierre Canet en a aussi.
On est une majorité, je pense, à être très dubitatif sur la pertinence de ces états généraux de l'information. Pourquoi ? Parce que déjà, les groupes de réflexion ont été constitués de manière assez obscure. On ne sait pas comment on a nommé les groupes. L'un des groupes les plus importants qui réfléchit à l'avenir du journalisme et des médias, quand vous regardez la composition de ce groupe, vous n'avez aucun enquêteur, aucune enquêtrice, vous n'avez aucun grand reporter de guerre, vous n'avez pas de gens qui savent ce que c'est que le dur de ce métier, c'est-à-dire de se confronter à un pouvoir, physiquement ou intellectuellement ou les deux. Comment réfléchit-on à l'avenir de la presse si on n'a pas dans le groupe de travail des gens qui connaissent ça ? Christophe Deloire, qui est le grand organisateur, donc le secrétaire général de RSF, nous garantit, quand on lui parle, qu'il ne se serait pas lancé dans cette aventure des états généraux de l'information si ça n'était pas pour déboucher sur du progrès, sur un renforcement du droit de la presse. J'ai pas de raison de pas le croire. Je dis juste que c'est bizarre de constituer une équipe de basketteurs pour aller faire la Coupe du Monde de rugby, quoi.
Nils Solari, salarié d'Acrimed.
Mais est-ce que tout ça n'est pas à s'en rappeler un peu le processus des conventions citoyennes qui ont déjà eu lieu dans d'autres domaines et qui ont abouti à la poubelle? Enfin, pour partie, quoi.
Catherine Zemmoury, auteure de la thèse sur la protection des sources du journaliste, est dubitative sur l'efficacité de ces états généraux, puisque l'État français, au sein de l'Union européenne, adopte une posture totalement contradictoire. Alors que les 27 s'apprêtent à voter le Media Freedom Act, un projet de loi qui vise à protéger le pluralisme et l'indépendance des médias, la France a longtemps demandé une dérogation. Concrètement, elle voulait autoriser les services de renseignement à intercepter les messages et échanges entre journalistes et leurs sources.
Si la France s'impose et impose son point de vue, alors là, ça ouvre la voie au pire pour les journalistes, parce que dans ce cas, ils pourraient être espionnés dès que le gouvernement le demande, sans qu'il y ait aucune protection de la source. Donc, vous voyez, étant donné qu'ils ont fait cette demande d'autorisation d'espionnage au sein de l'UE, je ne suis pas certaine que les États généraux aboutissent à quoi que ce soit. Mais bon, une fois encore, restons optimistes.
Au moment de notre entretien avec Catherine Zemmoury, le verdict n'avait pas encore été rendu. Mais heureusement, la France ne s'est pas imposée, du moins pour cette fois-ci. En l'absence de cadre juridique fort, la liberté de la presse est la cible de multiples attaques. Mais des solutions sont pensées, proposées et réellement nécessaires pour préserver cette liberté, pilier de notre démocratie.
Elle se trouve dans les pages d'ouvrages écrits par une économiste convaincue, dans les initiatives portées par des journalistes qui s'organisent, dans les tentatives politiques, entre nos mains à nous, jeunes journalistes, mais aussi dans les vôtres, destinataires de l'information.
Il incombe à tous et toutes de préserver la liberté de la presse.
Vous venez d'écouter Silence sa presse, le troisième épisode de la série documentaire En quête de sens, réalisée par les étudiantes et étudiants du Master de journalisme de Sciences Po Rennes. Au cours de cet épisode, vous avez pu entendre un extrait d'Ariane Lavrieux, issu d'une vidéo du Fonds pour une presse libre de 2023, le lancement de l'émission Pièce à conviction diffusée sur France 3 en 2015 et la chanson I Wonder de Rodriguez.
Merci à tous nos intervenants. Dans le prochain épisode, retrouvez Juliette Pierre-Auberçon et Laurine Le Goff pour La Voix est libre. I wonder, wonder I do.